Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi sous la pluie. J'espère que vous allez bien quand même. Marianne Paquette au micro pour la dernière de la semaine. C'est vendredi. Malgré la pluie, ça se prend quand même bien un vendredi. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Jusqu'à demain, c'est la semaine nationale des proches aidants sous le thème « Je suis proche aidant, j'ai besoin d'être reconnu ». Vous dire qu'au Québec, on compte plus de 1 200 000 proches aidants, des proches aidantes également. J'avais envie de faire un sujet là-dessus, une table ronde, donc une émission consacrée à ce sujet, à savoir la réalité des proches aidants, leurs besoins et également les ressources qui existent pour eux ou pas. Hein? C'est selon, et ça, on va le découvrir. C'est également l'occasion de souligner leur travail. Au Canada, en 2011, les proches aidants ont donné 444 millions d'heures impayées en soins. Ça représente, attention, l'équivalent de 230 000 emplois à temps plein. Donc, on veut aussi souligner ici leur contribution à notre société. Ce sont de véritables piliers de notre système de santé. Et avec moi pour le faire, Mario Tardy, coordonnateur du regroupement des aidants naturels du Québec. Également, France Boisclair, proche aidante, également présidente de l'Association Lavalloise des personnes aidantes. Et Pierre Lesage, proche aidant. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais on pourrait faire une petite définition d'un proche aidant. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui soutient à titre non professionnel, sans rémunération, un proche, qui est malade, en fin de vie ou qui vit avec des limitations. Et lorsque l'on dit malade, ça peut être une maladie qui est physique, mais également mentale. Hein. Je pense que les proches aidants, des personnes qui ont une maladie mentale, se sentent parfois... oublié. Je vois que vous semblez d'accord avec ma définition. Maintenant, un proche aidant, c'est quelqu'un qui choisit pas nécessairement de faire ça. Première question qui s'adresse à Pierre et à France. France, bon, vous occupez de votre jeune garçon qui a 21 ans, qui vit avec une lourde déficience intellectuelle, également une déficience visuelle. De votre côté, Pierre, c'est votre conjointe qui vit avec le Parkinson. Je le disais, on choisit pas. Est-ce qu'il arrive un moment donné où l'on se dit, moi, j'y arriverai pas. Je peux pas faire ça. J'arriverai pas à, pouvoir remplir toutes ces responsabilités-là. Allez-y, Pierre.
Oui, d'accord. Absolument. On arrive à un moment donné où on se sent un peu dépassé parce que...
Approchez-vous, Pierre, un petit peu du micro.
Oui, d'accord.
Oui.
Par le travail qu'on a à faire et par les problèmes qui nous sont présentés, puis on réalise à un moment donné qu'on ne peut pas faire tout ça seul. Mais avant de le réaliser, on a peut-être été très loin dans nos essais, les essais par essai.
Essai-erreur,
oui. Trial and error. C'est ce qui se passe et à un moment donné, on réalise qu'il existe dans le système au Québec ou à Laval en particulier, des organismes qui peuvent nous aider et il faut les chercher, il faut aller les voir, puis il faut être présent. Et je pense que l'aidant, il a un rôle, il doit s'aider aussi. Mais je pense que ça répond à votre question.
Oui, parce qu'il n'y a personne qui nous apprend à être proche aidant. Hein?
Non, puis je vous dirais d'emblée, on a aussi comme n'importe quel enfant qui essaie de faire quelque chose, on pense on va être capable, on va se débrouiller, on va trouver les choses. Puis on n'a pas, dans notre éducation, la société, on a été porté aussi à être élevé de trouver nos propres ressources, demander le moins possible de l'aide autour. On est dans une société qui est beaucoup plus individualiste et ça se reflète aussi dans le fait qu'on a beaucoup de difficultés des fois à Ce que nos proches aidants reconnaissent que c'est normal d'avoir besoin d'aide parce que c'est hors du commun, c'est pas la normalité, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des organismes qui viennent nous supporter, puis il faut tendre la main vers ces organismes-là et même au niveau de notre famille, mm-hmm. parce que eux aussi, des fois, ils savent pas, ils sont comme nous. Ils apprennent, comme on dit sur le tas, à vivre avec une personne qui a une problématique. Et autant nous, on ne le sait pas, autant notre entourage non plus ne le sait pas.
Oui, et parfois, et ça, ça vient de vous, France Boisclair, vous disiez, parfois la famille, on ne sait pas si elle approuve nos choix et on ne veut pas trop leur demander de l'aide, leur imposer ces responsabilités-là, parce qu'on se dit, ben peut-être qu'ils me jugent, peut-être qu'eux, ils se disent, ben là, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je le placerais ou moi, je ne l'aurais pas gardé, cet enfant-là.
Oui, parce que c'est sûr que ça hypothèque le genre de vie qu'on aurait eu. Et eux voient, restent accrochés, je pourrais prendre comme mes beaux-parents, vont rester accrochés à ce que la vie de leur fils aurait pu être. Mm-hmm. Mais là, vu qu'Astor sont mariés, il est marié avec moi puis qu'on a un enfant handicapé, bien, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on vit avec, on s'adapte avec, mais c'est sûr, je t'avais écrit quand j'avais répondu à des questions, notre vie est adaptée au fait que cet enfant-là vit avec nous. Donc, nos choix sont en lien avec ça. C'est sûr qu'on est comme n'importe quelle personne. Un choix, on le fait. Donc, on vit avec ce choix-là et on l'assume. Oui.
Mario Tardy, vous représentez un petit peu tous les proches aidants du Québec à quelque part parce que vous êtes coordonnateur du HANC, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des étapes dans ce choix-là? Bon, je le disais tantôt, c'est pas nécessairement un choix, mais lorsqu'on fait le choix, qu'on va s'impliquer, qu'on va aider notre proche, est-ce qu'il y a un deuil? Est-ce que les proches aidants passent par différentes étapes?
Dans un premier temps, disons que je représente plus les organisations de proches aidants que les proches aidants. C'est une petite nuance un peu complexe pour rien, mais c'est quand même important. Maintenant, au niveau des étapes, ce qu'il faut comprendre, il y a des brillantes personnes qui ont établi différentes typologies d'étapes qui sont liées généralement à différents types de cas de figure de proches aidants. Mais il faut revenir à ce qu'on disait à l'origine, hein, tout comme le cancer, tout comme l'accident de voiture qui laisse le monde paralysé, tout comme la découverte d'une maladie chez une personne, c'est pas choisi, ça arrive et les gens se font qu'ils se positionnent par rapport à la réalité. Puis là, il y a différents positionnements qui peuvent arriver. Puis ce positionnement, ils le font dans le cadre du réel, c'est-à-dire la relation familiale, la solidité de l'entourage. Qu'est-ce qu'ils disent comme service public? Qu'est-ce qu'ils disent comme solidarité sociale à l'extérieur? Puis c'est toute une série de décisions qui se prennent tranquillement, pas vite, des fois très, très vite. Ouais, ça dépend des cas.
Dans votre cas, Pierre, vous avez dû vous ajuster assez rapidement.
Oui, j'ai dû m'ajuster rapidement et je m'ajuste encore. Et c'est un processus de tous les jours parce que l'état de santé de ma conjointe connaît des hauts et des bas à tous les jours et les moyens que j'utilise pour pallier à tout ça sont, je dois les improviser dans bien des cas. Mm-hmm.
Parce qu'au fond, la réalité, c'est ça. La situation de la personne qui est aidée, elle change, elle évolue, mais la réalité de la personne qui apporte le soutien, l'acte de solidarité, elle évolue aussi. Les gens qui ont pris soin de leur enfant, déficient intellectuel toute leur vie, quand ils sont rendus à 85 ans, ils n'ont pas la même capacité, ils ne se positionnent pas de la même façon que quand il y en avait 35.
Oui.
Donc, on est devant d'autres réalités. Puis donc, on est devant un continuum qui se modifie et ça oblige les intervenants et le réseau de la santé à arrêter de penser en stéréotypes puis aller à la vitesse des gens.
Oui.
Regarder la réalité avec le monde, puis les écouter, puis agir en conséquence.
Oui, parce que il est vrai que si la situation de santé du proche, de l'aidant se modifie, la santé du proche aidant aussi. On peut vivre plus de stress. Là. Les statistiques sont assez révélatrices. 28 % des proches aidants trouvent leur rôle stressant ou très stressant même. 19 % disent que leur santé physique ou émotionnelle s'est détériorée. Est-ce que c'est votre cas également, Pierre et France?
Bien, c'est sûr que de coordonner Moi, je me rappelle quand Alexandre était plus jeune que j'avais beaucoup de rendez-vous. J'avais jusqu'à 3 rendez-vous en réadaptation. J'avais les rendez-vous avec le neurologue, le rendez-vous avec le physiatre, avec le pédiatre. Tout coordonner, tout ça, d'avoir plein de gens qui gravitent autour de nous, c'est pas la normale, là. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas une porte normale. Notre porte, c'est une porte battante. Ça rentre, ça sort. On a l'impression qu'il y a plein de monde chez nous, qu'on n'est plus chez nous.
Tout le monde donne son avis.
C'est ça. Puis là, on se sent pas adéquat dans la manière qu'on fait. On est souvent ramené à ce qu'on fait pas comme faux, rarement ce qu'on fait comme faux. C'est sûr que comme parents, ça nous... On fait attention avec nos autres enfants. Ouais. Mais sur le coup, on se sent presque comme un enfant vis-à-vis le système de la santé. Et moi, ce que je trouve un peu décevant du système de la santé quelquefois, c'est que des fois, on va passer à côté des services qui existent, mais parce qu'ils ne nous ont pas été nommés, on n'en a pas fait la demande. Fait que c'est comme une économie, une économie au niveau de l'État qu'ils font parce qu'ils ne nous montrent pas tous les services qui existent en partant. On l'apprend à parler avec d'autres, à avoir des réunions avec d'autres parents ou avec d'autres personnes, que là, ah, il y a ce service-là que tu pourrais avoir, il y a ça. Mais sur le coup, parce qu'on ne l'a pas dit, on ne nous l'offre pas d'emblée. Puis ça, je trouve ça vraiment décevant à certains endroits. C'est sûr que nous, à notre organisme, c'est justement ce qu'on essaie de faire, de vraiment montrer tout ce qui peut être fait puis tout ce qui peut être là pour soutenir l'aidant, parce que c'est important d'être soutenu dans ce rôle-là si on veut continuer de le faire. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas dans la vie normale. Fait que quand on est un aidant, les hauts, des fois, sont plus hauts, mais les bas sont bas aussi, là.
Ouais.
Donc, c'est sûr qu'on est en montagne russe continuelle, puis on a des deuils à faire continuellement, puis on n'a aucune idée de ce qui s'en vient.
Le quotidien est dur à prévoir en ce sens-là. Pierre, votre conjointe vit avec le Parkinson. C'est une maladie qui est dégénérative. Est-ce que vous ressentez que l'équipe soignante qui s'occupe de votre femme vous soutient? Est-ce que vous avez de la bonne information par rapport à sa condition de santé?
Oui, l'équipe soignante est très adéquate. Là, on parle du neurologue, des intervenants. On était au centre de réhabilitation de l'hôpital juif de Laval où elle a été suivie par ergothérapeute, physiothérapeute, etc. On l'a vraiment supporté. On nous a apporté les services qui étaient de pointe, qui étaient disponibles. Et puis, je n'ai juste que des éloges à apporter à tous ces gens-là, qui, même les gens du CLSC, je pense à la travailleuse sociale, à l'ergothérapeute, qui sont venus à la maison, qui nous ont suggéré, pas imposé, mais ils ont fortement recommandé, par exemple, d'utiliser un lit d'hôpital parce que c'était important pour moi qui la soulève, parce que, vous savez, c'est pas tellement bon pour la santé d'être un aidant. Alors, je suis très satisfait des services.
Bon pour votre santé, mais bon pour la santé de la société, par exemple, Pierre Lesage. Mario, on parle de différents besoins des proches aidants. On a parlé du soutien de la famille. Est-ce qu'il y en aurait d'autres vraiment à souligner, vous qui rencontrez les organismes là, qui représentent les proches aidants au Québec?
Les organisations communautaires qui soutiennent les proches aidants sont dotées d'une diversité de pratiques qui suit toutes sortes de chemins, parce que, selon les capacités financières, les réalités géographiques aussi. Vous savez, intervenir en milieu rural, se joue pas de la même façon qu'en milieu urbain. Bon, il y a toutes sortes d'éléments dans ce genre-là, mais il y a quand même des axes qui se dégagent. Les personnes aidantes ont besoin de prendre la parole, d'échanger, d'être entendues, puis de se reconnaître dans les autres. En tout cas, plusieurs, pas toutes les personnes aidantes, mais plusieurs ont ce besoin-là. Donc, on retrouve à peu près partout au Québec des groupes d'entraide, des groupes de soutien. Il y a aussi un besoin pour différentes formes d'accompagnement des aidants dans le système puis dans le réseau de la santé. Tant mieux que ça a bien été pour Pierre, Mais pour beaucoup
pas
de gens...
Pas le pour tout le monde. Hein.
Ça, mais aussi, des fois, c'est pas évident. Il faut tomber sur la bonne personne au bon moment dans la machine. Puis, les institutions sont rendues tellement grosses que même la personne à l'accueil psychosocial, la personne qui reçoit le premier appel, des fois, c'est juste pas où vous dirigez.
Mm-hmm.
Parce qu'on est rendu devant des institutions qui sont d'une grandeur et qui a un roulement, une instabilité extrêmement importante. Et en ce moment, au Québec, les personnes aidantes... Vous savez, on est dans un mode bureaucratique, hein, tous les systèmes. Donc, pour que l'État intervienne, ils font une évaluation des besoins de la personne à aider. Mais il n'y a pas d'évaluation qui est faite pour les besoins des proches autour, des aidants. Est-ce que ces personnes-là ont besoin d'un soutien? Il n'y a pas d'outils d'évaluation. Il y a des intervenantes qui vont prendre la peine de remplir les annexes. Mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas d'outils qui permettent de faire ça. Donc, mm-hmm. techniquement...
Il n'y a pas une façon de faire là, qui pourrait faciliter les démarches.
Il y en a qui... Il y a eu toutes sortes de projets, d'essais qui ont été faits un peu partout au Québec, mais il n'y a rien de généralisé. Et ça devient invisible. L'intervention que l'État fait auprès des proches aidants, sauf par le soutien qu'il fait au groupe communautaire, devient invisible puisque, techniquement, les aidants ne sont pas des clients du réseau de la santé.
Mm-hmm. Mm-hmm. Puis on retrouve un peu ce... Parce qu'on discutait en s'en venant, nous, on vient de Laval,
oui.
C'est quand même... C'est pas loin, mais c'est bien loin en trafic. on discutait, puis on se disait justement qu'il y a comme un trou de service quand les gens prennent soin de quelqu'un à la maison et quand l'aidé s'en va en hébergement. Là, il n'y a plus personne qui va à la maison parler avec l'aidant.
Mm-hmm.
Parce que l'aidant n'a pas de dossier. Mais l'aidé a tous les services en hébergement et c'est par le service d'hébergement que là, il y a quelqu'un. Mais l'aidant est laissé à lui-même. Là. L'aidant vit un deuil et une culpabilité des fois très grande parce que là, il a comme rencontré une inévitable... C'est inévitable pour lui que là, il devait aller vers l'hébergement. Et on se retrouve, vu que l'aidant n'a pas de dossier, mais là, souvent, ils vont nous dire, bien là, s'il est en détresse psychologique, il peut faire appel au CLSC, faire ouvrir un dossier, puis là, on va voir si l'intervenant peut être là ou tout ça. Fait que souvent, c'est les organismes communautaires qui vont développer. Comme chez nous, nos gens peuvent avoir des interventions psychosociales pour justement passer au travers de ces étapes-là. Puis ça, quand tu parlais tantôt, y a-tu des étapes? Mais ça, c'en est une.
Mm-hmm.
C'en est une. Quand on passe à l'hébergement, les gens sont très démunis à ce moment-là.
Oui. France, ça fait 21 ans que vous êtes proche aidante parce que maintenant, votre garçon a 21 ans. Dans votre cas, Pierre, c'est tout nouveau. Vous faites quoi pour briser l'isolement, s'il y en a, bien sûr?
Oui, il y en a un, l'isolement. Ça peut difficilement se faire autrement. Et comment je réussis à briser l'isolement? Bien, entre autres choses, là, je me suis joint à l'ALPA à Laval avec le groupe de...
Mm-hmm.
Ce groupe, et c'est ce que j'invite tous les autres aidants à faire, se joindre à des groupes comme celui de France, où on rencontre d'autres aidants parce qu'on est isolé. Vous savez, vous devenez aidant rapidement. Moi, dans mon cas, c'est à l'intérieur de 2 ans, à l'intérieur d'un an même, je devrais dire. Alors, vous savez, tout votre mode de vie change. Là. Vous oubliez tout ça. Là. Vos amis, les sorties le soir, aller manger au restaurant, aller voir un spectacle, c'est fini, ça. C'est fini d'y aller avec votre conjointe. Mais par contre, votre conjointe ne peut pas la laisser seule. Donc, vous êtes pris dans une espèce de changement de vie. Et... il ne faut pas essayer de vivre comme on vivait avant. Il faut accepter ce deuil-là et se joindre à des groupes comme l'ALPA à Laval et d'autres organismes comme les groupes de soutien Parkinson qui font du très bon travail. Et c'est là que vous allez finalement retrouver un nouveau milieu que vous ne soupçonniez même pas qu'il existait et qui va vous apporter du support. Puis finalement, vous n'êtes pas si seul que ça parce qu'il y en a bien d'autres comme vous.
Oui. Là-dessus, on prend une courte pause, nous. Restez pas loin, on vous revient dans quelques instants.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Thank you. On est de retour à l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Je vous rappelle aujourd'hui, ben, on dédie cette émission aux proches aidants parce que c'est la Semaine nationale des proches aidants qui se termine demain. Autour de la table avec moi, Mario Tardy, coordonnateur du regroupement des aidants naturels du Québec, France Boisclair, proche aidante, également présidente de l'Association lavalloise des personnes aidantes, et Pierre Lesage, proche aidant. France, bon, vous avez été à la maison auprès de votre fils pendant 17 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un retour au travail maintenant et vous avez décidé un petit peu peut-être de redonner ou d'être dans le milieu que vous connaissez, c'est-à-dire celui des proches aidants, parce que, en fait, vous vous impliquez auprès de l'Association lavalloise des proches aidants. Quels sont les services? Ça s'adresse à qui, cette association-là?
L'association s'adresse à tout proche aidant, peu importe la problématique de l'aider. Fait que ça peut aller d'un parent qui s'occupe d'un enfant handicapé à quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un qui a de l'Alzheimer, au cancer, ou peu importe. Nous, c'est vraiment l'aidant qu'on reçoit chez nous. On va l'accompagner en lui donnant des services de répit. Services de répit réguliers, donc on peut lui offrir une journée par semaine de manière régulière. On peut lui donner aussi un service de répit ponctuel, c'est-à-dire quand il en a besoin, aussi banal, ça peut être pour aller ouvrir le chalet l'été, aller faire une partie de golf, aller à un mariage, aller à un baptême ou des choses comme ça. Donc ça, on a le répit ponctuel. On a des interventions psychosociales individuelles aussi. Où les gens, justement, quand ils ont une étape un petit peu plus importante à vivre dans leur vécu, où ils peuvent ventiler, en fin de compte, de manière individuelle avec une intervenante. On a des groupes de soutien aussi, des groupes de soutien ouverts, où les aidants viennent se rencontrer et parler d'une problématique. Et habituellement, on n'a pas de misère... Ils se parlent énormément. Et on a aussi des conférences où on fait venir des gens qui sont à la fine pointe de ce qui se fait en recherche au niveau des aidants, au niveau du stress, au niveau de différentes choses, pour outiller nos aidants pour vivre, pour apprendre justement à prendre un certain contrôle sur leur vie. On a aussi des formations. On a eu des formations en réflexologie. Pour que l'aidant apprenne la réflexologie, puisse après ça la donner à son aidé ou à d'autres membres de sa famille, bien entendu. C'est ça, on a eu de la réflexologie, on fait du mandala, on a fait aussi de l'art-thérapie. Donc, différents outils pour aider l'aidant, en fin de compte, à se trouver une autre manière pour décompresser sans que ça soit trop envahissant dans son vécu à tous les jours. Là.
Vous avez dit prendre un contrôle sur son vécu, mais... J'entends aussi prendre du recul à quelque part, comprendre, OK, c'est ça qui m'arrive, ça se passe comme ça pour moi, pour l'autre, ça se passe comme ça, mais on est plusieurs dans le même bateau, puis ça me donne l'énergie pour continuer.
Oui, c'est ça, parce que, comme on disait aussi en discutant, on a discuté beaucoup ensemble.
Ça sert à ça aussi des émissions de radio, discuter.
À un moment donné, l'aidant a besoin d'avoir une personne neutre, qui n'est pas son entourage, qui n'est pas... pour pouvoir ventiler puis pouvoir se faire dire « c'est correct qu'est-ce que tu vis. C'est correct que tu aies cette émotion-là. » Ça peut être une émotion négative, positive, peu importe, mais c'est normal que tu aies cette émotion-là dans le moment où ce que tu es présentement. Et c'est important que ces ressources-là soient disponibles aux aidants pour qu'ils puissent justement comme vider... pour pouvoir continuer puis pouvoir se dire, là, OK, tout est beau, tout est correct. On a besoin dans la vie de se faire dire que que c'est correct puis on est sur la bonne voie.
Mario Tardy, il reste peu de temps, le temps file, mais j'aimerais tout de même vous entendre là, en une minute à peu près sur les différentes requêtes du RANC auprès du gouvernement pour les droits, les besoins des proches aidants.
Ce qu'il faut avoir comme perspective générale, puis je vais faire du pouce sur ce que vient de dire France, c'est important que le monde puisse prendre du recul pour pouvoir continuer, mais aussi pour pouvoir arrêter, pour pouvoir fixer leurs limites. Quelque part, les personnes aidantes ne doivent pas se retrouver dans une situation où ils sont obligés de poser des actes qu'ils ne désirent pas par manque de services publics. Quelque part, donc ça veut dire qu'il doit y avoir des services de maintien de domicile de qualité, d'hébergement de qualité à grandeur du Québec, parce que ce que ne fait pas l'État, c'est les familles, c'est les proches qui vont le faire. Quelque part aussi, les interventions doivent être faites en se disant, la personne malade n'est pas tout seul, il y a des gens autour. Donc, il faut que les proches aidants soient considérés concrètement, pas juste dans le cadre de politiques abstraites, comme à la fois des clients et des partenaires du réseau de la santé.
Mm-hmm.
Quelque part aussi, le fait de choisir de devenir aidant, ça ne doit pas nous pénaliser au-delà du raisonnable. Donc, ça ne doit pas faire qu'on soit exclu du marché du travail en permanence. Ça ne doit pas nous obliger à vivre dans la pauvreté et à tout perdre. Donc, il y a un filet de sécurité sociale qui doit être revu, retricoté pour tenir compte de la réalité des personnes aidantes. Donc, ça m'apparaît des axes très importants et qui passent par des mesures très claires, des modifications à la prestation de compassion fédérale, des modifications au norme du travail au Québec. Comme on disait, la création d'un outil pour évaluer les besoins des proches aidants, pour les interventions, l'évaluation des besoins, etc., etc. Mais ça, il y a comme une déclinaison assez importante de choses. L'enjeu, c'est que les proches aidants doivent éditer pour elles-mêmes. C'est clair que c'est un duo, hein? Si l'autre ne serait pas malade, si l'autre ne serait pas limité, n'aurait pas eu un problème, un accident
ou quelque chose, voilà.
La personne ne serait pas aidante. Mais la personne aidante, elle existe par elle-même et ça doit être reconnu, et ça doit être établi et elle doit pouvoir le vivre par elle-même et faire des choix.
Oui.
Et non juste être dans une dynamique où on pousse, on suit, dans un... Puis on se fait déléguer des tâches...
On entend le thème, ça veut dire qu'il reste une minute. Pierre, je vais vous laisser le mot de la fin en trois mots. Qu'est-ce qu'il y a de positif à être proche aidant?
Qu'est-ce qu'il y a de positif à être proche aidant? C'est de rencontrer plein de gens, apprendre à s'aider, parce qu'un aidant, il faut qu'il s'aide, et pas attendre trop qu'on vienne nous fournir des services à la maison, mais aller les chercher où ils sont, comme à l'ALPA à Laval.
Alors, Mario Tardy, coordonnateur du regroupement des aidants naturels du Québec. Merci. France Boisclair, proche aidante, présidente de l'Association lavalloise des personnes aidantes. On glissera également l'adresse de votre site sur le nôtre. Et Pierre Lesage, proche aidant, merci beaucoup à vous trois. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et puis, vous avez tout mon soutien et mon admiration. Merci pour votre travail.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Emir Mozo, merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur du monde pour tes futurs projets. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. Christiane Campagna, je te salue à la recherche. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous souhaite de bien vous reposer pour le week-end. On se retrouve, nous, lundi 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.